BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On est ensemble jusqu'à midi pour vous accompagner dans le monde de vos placements. C'est BFM Patrimoine qui vous accueille pour 2 heures d'expertise pour vous permettre de gérer au mieux votre argent. Et on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls de cette première heure de cotation grâce à Aude Kersulec, installée pour BFM Business au cœur de cette salle de contrôle du CAC à la Défense. Bonjour Aude, que se dit-on sur les tables pour terminer cette semaine?
Eh bien, c'est un rebond assez inattendu avec ce qui s'est passé hier, mais quand même bon à prendre, hein, puisque le CAC 40 grimpe de plus de 1,2%, 5745 points. Alors, ce sont les futurs américains qui se sont retournés ce matin et qui ont favorisé cette ouverture positive où l'on reprend quelques couleurs. Alors, on rachète à bon compte sur des secteurs qui avaient beaucoup baissé aussi, des cycliques, des bancaires, des matières premières, on va le voir. Et puis, ne pas oublier aussi que c'est la dernière séance du mois de septembre, mais aussi la dernière séance du trimestre. Donc, il y a des opérations en fait de façade, de composition de portefeuille pour améliorer ce qu'on va montrer aux clients. Après ce mois de septembre quand même assez catastrophique sur les marchés, il n'en reste pas moins qu'attention, c'est quand même assez volatile, hein, rien que ce matin avant l'ouverture, et puis ça a été nerveux aussi ce matin du côté de l'Asie. Hier, la tech était attaquée. Apple était quand même qualifié par un analyste de pas aussi sécurisante qu'auparavant. Donc ça pourrait faire quelques turbulences à venir. Et puis en plus, aujourd'hui, on reparle d'inflation. Alors en France, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France, disait un expert sur Twitter, par rapport aux chiffres qui ressort plutôt bon, un petit peu plus de 6% par rapport au chiffre allemand qui est lui quasiment à 11%. Et puis sortira dans une heure le chiffre d'inflation de la zone euro dans son ensemble qui devrait être élevé et frôler les 10%. Et cet après-midi, l'indicateur PCE, le préféré de la Fed, celui qu'elle regarde de près aux États-Unis, sera publié. Donc aussi un indicateur d'inflation. Alors même si ce rebond semble assez fort, hein, plus 1,2% sur les marchés européens, prenons garde. Hein. Alors dans les valeurs qui s'en sortent bien ce matin, on a notamment Saint-Gobain qui reprend plus de 3% à 36,69 €. Unibail Rodamco aussi qui était chahuté ces derniers temps, plus de 3% à 41,50 €. Et puis Alstom qui est quand même sur des plus bas assez historiques, plus de 3% à 16,70 €. Des rachats aussi sur le SBF pour deux valeurs qui avaient bien baissé hier après leur résultat, leur publication. Solution 30 qui reprend plus de 10% à 2,12 € et Orpea plus de 6% à 11,22 €. Voilà, peu de recul. Hein. Seul Hermès est vraiment en très très légère baisse, moins 0,08 %. Et puis Atos qui a repoussé l'offre du français OnePoint, hein, qui a valorisé l'activité cybersécurité d'Atos. Évident à un petit peu plus de 4 milliards d'euros. Et bien pour l'instant, c'est une baisse pour la valeur, moins 2,15 %. Elle avait quand même grimpé de 10 % hein, hier. Et puis on regarde aussi Porsche après pour son deuxième jour de cotation. Et bien finalement, c'est assez stable pour la valeur. Porsche AG, 82,54 €, soit son niveau d'introduction. On sous-performe largement le DAX qui grimpe plus de 1,2 %. L'euro vaut ce matin 98,47 cents. La livre, alors c'est un peu reprise, hein, puisque maintenant on est au-dessus des 1,11 $, loin du creux de début de semaine à 1,03 $. Et puis le baril de Brent vaut un petit peu plus de 88 $. Voilà, le CAC tout juste à la porte des 5750 points. On reprend ce matin 1,2 %.
Merci Aude Kersulec qui nous accompagne ce matin pour suivre ces évolutions de marché. Le CAC 40 donc qui débute cette séance plutôt de façon positive. On va bien évidemment continuer à suivre ces évolutions de l'indice et commenter les grands temps forts de ce mois de septembre au cours de Regards Croisés. On se donne rendez-vous peu après 11h. Tout de suite l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et elle a une l'inflation ralentit en France en septembre. Les prix progressent de 5,6% sur un an, selon l'estimation provisoire de l'INSEE, contre une hausse de 5,8% en août. Dans le détail, les prix de l'énergie et des services ralentissent, mais ceux de l'alimentation et des produits manufacturés s'accélèrent. Et pour ce qui est de la consommation des ménages, eh bien, elle est restée totalement stable en août, après un mois de juillet en baisse. Au Royaume-Uni, le PIB est finalement revu à la hausse au deuxième trimestre. La croissance progresse de 0,2% contre une prévision de recul de 0,1%. Mais une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui avec Liz Truss. Selon le Guardian, le gouvernement va être informé de nouvelles prévisions de croissance et de déficit. Nouvelle réunion de crise des ministres européens de l'énergie pour faire baisser les prix. Les 27 vont annoncer aujourd'hui un accord sur trois mesures pour soulager les ménages et les entreprises. Le plafonnement des revenus des producteurs d'électricité, une taxe sur les super-profits dans les énergies fossiles et des objectifs chiffrés en matière de sobriété énergétique. Dans l'actualité entreprise, Danone contre-attaque. Le groupe est accusé par Intermarché de profiter de la crise pour faire passer des hausses de prix, notamment sur les bouteilles d'Evian, des hausses de tarifs qui sont totalement justifiées, selon le directeur général de Danone France. François Hérault était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Une bouteille d'Evian 500 ml, elle est faite en plastique qui provient de plastique ou de bouteilles qui ont déjà été utilisées. Donc c'est une matière qui est différente du plastique conventionnel.
C'est plus cher ?
Oui, c'est beaucoup plus cher, ça augmente beaucoup plus vite et compte tenu des critères de qualité qu'on a pour avoir un produit irréprochable, effectivement, il y a des différences de coûts.
La bataille pour le rachat d'M6 tourne au duel avec Niel Berlusconi d'un côté, Courbis Saadé de l'autre. Les duos auraient mis autour d'1,2 milliard d'euros sur la table. Et la décision est imminente puisque le patron de Bertelsmann, actionnaire d'M6, sera à Paris ce week-end. Valneva annonce ce matin une augmentation de capital. Le laboratoire franco-autrichien va lever 103 millions d'euros. Objectif, financer ses vaccins contre la maladie de Lyme et contre le virus du chikungunya. Atos rejette une offre sur ses activités digitales et de cybersécurité, un rejet à l'unanimité du conseil d'administration. L'offre était formulée par OnePoint, une société de services informatiques alliée à un fonds d'investissement anglo-saxon pour 4,2 milliards d'euros. Et puis, aux États-Unis, Meta gèle les embauches. La maison mère de Facebook et Instagram prévoit un budget 2023 très serré selon le Wall Street Journal. Le groupe a publié en juillet un chiffre d'affaires trimestrielle en baisse pour la première fois de son histoire.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collo, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre les développements de cette actualité économique. En attendant, le marché parisien progresse d'un 14%, 5741 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et on file rejoindre GSD Gestion. Nous attend Guillaume Magret. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer Euronext. On n'est jamais si proche de la bourse que lorsqu'on parle d'Euronext.
Exactement. Bah, comme vous l'avez rappelé, hein, dans ce mois de septembre un peu compliqué, nous avons choisi de vous parler d'Euronext, donc une belle société de qualité croissance qui aujourd'hui est à un prix raisonnable. Donc Euronext, c'est un opérateur de bourse, hein, pan-européen, leader sur ses marchés historiques, à savoir Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, et dont l'activité de base hein, d'Euronext est d'apporter de la liquidité sur les marchés via son logiciel optique qui agrège les ordres reçus et les intègre dans un unique carnet d'ordres. Donc à cette activité historique, Euronext a également rajouté les métiers suivants afin de en fait diversifier son offre et d'afficher une plus grande résilience de son chiffre d'affaires. Donc on a le listing, le derivative trading, le market data, le post-trade, hein, donc c'est fonctions dépositaires, chambre de compensation, et l'activité Market Solutions. Donc Euronext, c'est une société qui, par le passé, est plutôt allée chercher des relais de croissance en externe. Il est vrai que sur ces métiers-là, il y a de fortes synergies à aller racheter des bourses en fait déjà existantes, et ça, Euronext l'a très bien compris. Donc elle a racheté dans un premier temps la bourse d'Oslo, avant de s'attaquer en 2020 à la bourse de Milan. Donc, ce rachat a d'abord pesé sur le titre, hein, car les autorités ont mis un peu de temps en fait à valider l'opération, mais aujourd'hui l'intégration avance très bien, les targets donnés pour 2024 sont maintenus et les 100 millions d'euros de synergies avancées par l'entreprise sont clairement atteignables. grâce à la reprise notamment en propre du clearing. Donc la société, hein, preuve de sa qualité, elle a même revu à la baisse en fait les coûts liés à cette intégration. Donc ça montre la capacité qu'a le management à délivrer. Ça, c'est une force aussi chez Euronext et ça fait partie des points positifs que l'on aime. Donc, et puis enfin, dans le contexte actuel, hein, ça aura échappé à personne. Les marchés sont très volatiles et ça, Euronext, de par son business, elle peut le monétiser. Donc, dans un contexte de forte volatilité, Euronext, pour nous, elle va tirer profit de cette volatilité. Et en fait, quand on regarde, ça s'est déjà plus ou moins retranscrit dans les deux premiers trimestres. Hein, Euronext a affiché une croissance solide au-dessus des attentes, que ce soit sur les activités de volume, à savoir le trading et le post-trade, mais aussi sur le service, c'est-à-dire le listing et le data. Voilà. On rappelle vite fait les chiffres, peut-être, non ?
Oui, allez-y.
C'est une croissance de 2,5% des revenus sur les derniers chiffres publiés, un EBITDA de 59,2 points, donc en progression d'un point, et une bonne génération de cash flow.
Bon, voilà quelques idées à avoir en tête. Quand on regarde un petit peu l'évolution du cours, quand on regarde son niveau actuel, qu'est-ce qu'on en pense et quel objectif de cours vous nous fixez ?
Alors, on a un objectif de cours à 100 euros et en clair, hein, pour un peu donner un peu l'idée. C'est vrai qu'on est dans un marché, là, le CAC perd 20% depuis le début de l'année. Il y a que deux valeurs qui sortent du lot, qui sont en positif. Nous, la question qu'on se pose, voilà, c'est dans un marché qui baisse de 20%, est-ce que Euronext, qui elle baisse de 30%, c'est, comment dire, bien pricé? Nous, il nous semble que non. Donc, c'est pour ça que, voilà, on est à l'achat sur ce titre. Et quand on regarde ses multiples, hein, si on prend son PE, là on a un PE 12. Historiquement, on est plus aux alentours 17-20. Ça reste une boîte qui, même par rapport à ses comparables, reste moins chère, à savoir Deutsche Börse et le London Stock Exchange. On est sur des PE de 22. Là, le PE pour Euronext, il est autour de 12. Donc ça nous semble quand même relativement peu cher payé pour une belle boîte avec un management solide. Et voilà, un business model qui est plutôt résilient dans des périodes où les marchés sont très volatiles.
Merci beaucoup, Guillaume. Depuis GSD Gestion ce matin et cette recommandation donc sur Euronext, recommandation d'achat, objectif de cours 100 euros. Le marché en hausse d'un 14%, 5741 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Philippe Wächter est en ligne avec nous depuis Ostrom Asset Management. Bonjour Philippe.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous ce matin pour causer des tout derniers chiffres français, peut-être plus singulièrement, bien évidemment, de celui qui nous préoccupe ou qui nous occupe le plus, celui de l'inflation. Inflation qui ralentit en France. Quelle lecture en faites-vous ?
Une lecture très, très simple. La principale contribution à la baisse de cette inflation, c'est le prix de l'énergie, qui traduit deux choses. D'abord, la baisse du prix du baril, la baisse du prix du gaz aussi qu'on observe par rapport au mois d'août, et puis les effets de la politique gouvernementale sur le prix de l'essence. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre point à souligner, c'est la hausse continue des prix alimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays, et on voit bien que ce soit les produits frais ou que ce soit les produits alimentaires industriels, on a des mouvements de hausse qui sont significatifs et qui vont forcément être une contrainte pour les ménages. Voilà, ce sont les deux principaux aspects. Les services baissent un tout petit peu, alors ce qui est un signal intéressant parce que c'est la dynamique des services, des prix des services, est très dépendante de celle des salaires. Et on a le sentiment que les pressions salariales ne sont pas aussi fortes qu'aux États-Unis, par exemple, où la relation entre les salaires et le prix des services est très claire. Là, ça paraît peu, il y a, semble-t-il, peu de pression. Donc, ça veut dire que la dynamique, la boucle prix-salaire que tout le monde redoute est en train de, finalement, pas très bien fonctionner, ce qui doit ravir la Banque Centrale Européenne.
Voilà donc pour ce côté européen, enfin en tout cas sous le parapluie de la Banque Centrale Européenne, l'inflation donc qui ralentit en France. On traverse la Manche parce qu'au Royaume-Uni, on a vraiment l'impression que rien ne va plus.
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et alors, comme le signalait votre journaliste tout à l'heure, le PIB du deuxième trimestre a été révisé un petit peu en hausse. Donc ça, c'est ouf, un petit bol d'air frais pour Liz Truss. Mais c'est vrai que la situation est très complexe aujourd'hui avec, il y a deux jours, l'intervention de la Banque centrale anglaise, de la Banque d'Angleterre, pour essayer de limiter le risque sur les taux longs et son impact sur les fonds de pension. Liz Truss qui doit se réunir aujourd'hui avec l'OBR, qui est l'organisme responsable du budget et des projections britanniques. Donc on sent bien que ça bouge dans tous les sens, et puis on est toujours sous le choc des annonces qui ont été faites la semaine dernière, qui se traduisent par un déficit très important, et avec un calibrage de cette politique économique qui est fortement discutable et qui a été très largement discuté par les économistes et pas simplement.
Voilà donc pour le côté anglais. On va continuer à suivre, hein, parce que voir un pays qui fait partie quand même des pays les plus riches du monde pointé du doigt par le FMI dans ces termes-là, c'est vrai que c'est assez surprenant. Ça nous ramène il y a bien longtemps, avant la période de Thatcher, a priori. Hein.
Absolument, oui.
Voilà, toujours en Europe, parce que en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur le vieux continent. L'Italie. Est-ce que, quasiment une semaine après le résultat des législatives italiennes, vous vous dites qu'il y a un problème italien ou pas ?
Il y a forcément, on s'interroge forcément sur l'Italie, parce que depuis une quinzaine d'années, il y a un biais politique assez marqué de Berlusconi à Meloni, en passant par Salvini. On voit bien que il y a un basculement du côté italien. Pour l'instant, ça ne s'est pas traduit par une défiance marquée vis-à-vis des institutions européennes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a toujours un peu de résistance, etc. On se cale, enfin les gouvernements italiens se calent sur des données qui ne sont pas économiques, pas directement économiques, comme les phénomènes migratoires, etc. Mais il n'y a pas d'attaque directe ni sur la BCE, sur la zone euro ou sur les orientations de la Commission en termes économiques. Et puis, de toute façon, ce gouvernement va être très fortement conditionné par les engagements qui ont été pris par Mario Draghi, puisque le fameux plan européen qui a bénéficié à tout le monde, mais particulièrement à l'Italie, les versements de ce plan ne pourront se faire que si l'Italie suit les engagements qui ont été pris par Draghi. Et l'Italie a aujourd'hui besoin très fortement de ces fonds pour soutenir sa croissance et les réformes qu'il y a à mettre en œuvre. Donc les marges de manœuvre du gouvernement Meloni probablement sont finalement assez réduites aujourd'hui.
Merci beaucoup Philippe Wächter, Ostromheim, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien, lui, progresse d'1,14%. On est au plus haut du jour pour le moment, 5741 points.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roi.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Olivier Landrevy, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour CAFPI, et inutile de vous dire qu'on vous attend sur le taux d'usure.
En fait, moi j'ai hésité à créer un petit jingle taux d'usure, ouais. Parce que bon, on en parle assez régulièrement. Puis là en plus, il faut mettre des trompettes, tout ça et tout ça, parce qu'a priori on n'a que des bonnes nouvelles, c'est ça Olivier?
Oui, faire un triomphe en main, quoi.
Un petit triomphe.
Je suis pas sûr que je sortirai les trompettes quand
même. Ah, pas aujourd'hui.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un soulagement. D'abord pour ceux dont les dossiers de crédit étaient bloqués ces dernières semaines, et ils étaient nombreux. Donc on va avoir une fenêtre de tir pour essayer de solutionner ces difficultés. Le taux qui a été annoncé à 3,05, Moi, je considère que c'est le haut de la fourchette qu'on pouvait attendre compte tenu du cadre qui avait été fixé par
le
gouvernement.
Parce qu'on le refait, on est passé donc sur le trimestre précédent à 2,57% en taux d'usure pour les crédits au-delà de 20 ans, on passe à 3,05% pour le trimestre à venir, le dernier trimestre de cette année. Alors, c'est quand même une hausse sans précédent compte tenu du fait que le gouverneur de la Banque de France a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire respecter la formule mathématique qui permet d'augmenter ce taux d'usure. Donc c'est effectivement la fourchette haute et vous considérez pas, parce que dans le communiqué de la Banque de France, quelque part, la Banque de France dit, bah vous voyez finalement, notre mode de calcul, il est pas si mal que ça.
Bon, alors d'abord, c'est quand même la première hausse vraiment significative, alors que le mouvement de hausse des taux de crédit, lui, avait commencé début mars. Donc on a là quand même la démonstration d'un effet retard de 7 mois qui est problématique.
Du décalage, ouais. Ouais.
Là, quelque part, ce taux de 3,05, si on l'avait eu au 1er juillet, oui, on aurait pu servir les Français correctement sur leur demande de crédit. Donc il y a quand même cet effet de décalage.
Bon, enfin malgré tout, le 9 septembre, sur notre antenne, Françoise Villeroy de Galhau ne voyait rien venir. Le 29 septembre, chez lui, place des Victoires, il a vu quelque chose venir.
Oui.
Donc
oui,
on peut
oui,
déjà
bien
se.
Bien sûr. Non,
de
ce point de vue-là, c'est bien. Et puis il a aussi engagé un dialogue avec les courtiers. Donc tout ça est positif.
Vous avez manifesté. Pas...
Oui, oui, oui. Maintenant, comment dire, cette annonce, elle résout la moitié de l'équation. Ça n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié de l'équation, ce sont les taux de crédit. Et les taux de crédit eux-mêmes dépendent des taux de marché, des taux auxquels les banques vont pouvoir se refinancer. Et sur ce plan, je reste inquiet, parce que depuis la mi-août, les taux de marché, les taux longs, progressent très vite. L'OAT 10 ans, cette semaine, a passé 2,80. Les coûts de refinancement des banques sont, eux, encore beaucoup plus hauts que ça. Hein. Ils sont quelque part entre 3,50 et 4% sur les durées longues. Et donc, il me semble inévitable que dans les semaines qui viennent, on voit de nouveaux ajustements à la hausse des taux proposés par les banques sur les crédits immobiliers, si bien qu'assez rapidement, à mon sens, avant la fin octobre, on retrouvera le même niveau de tension lié au taux d'usure que ce qu'on avait connu depuis le 1er juillet.
Donc concrètement, en gros, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que là, on va avoir une petite fenêtre de tir de 3 semaines au mieux, et après, bah, de nouveau, on va se retrouver dans la même situation de blocage. En gros,
c'est
là.
C'est mon anticipation. J'espère que j'aurai tort.
Bah, non, mais justement, pour étayer ce que vous nous dites, c'est que vous avez vous les grilles des banques. Quels sont les taux nominaux aujourd'hui moyens que proposent les banques pour un crédit sur 20 ans, par exemple?
Alors pour l'instant, les grilles des banques, elles étaient toutes calées sur l'ancien taux d'usure à 2,57.
Ouais.
Donc, en gros, ça signifie que progressivement, les taux des banques, que ce soit à 20 ou 25 ans, convergeaient autour de 1,95-2%.
D'accord.
Parce qu'au-dessus, de toute façon, ça ne passait plus avec le taux d'usure. Donc.
Alors, il y avait des banques quand même qui allaient volontairement, qui mettaient volontairement au-dessus en disant, de toute façon, je m'en fiche, je préfère pas faire le crédit du tout plutôt que de perdre de l'argent.
Oui. Il y a trois grands réseaux bancaires qui sont sur cette politique. Voilà, donc on commence à entendre, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel, on commence à entendre des partenaires bancaires qu'ils travaillent à des ajustements qui vont sortir dans les jours ou les semaines qui viennent. On n'en connaît pas encore l'ampleur, mais ça arrive.
Et du coup, pour parler très franchement, très techniquement, à partir de jusqu'à quel taux nominal sur 20 ans, ça passe avec un taux d'usure à 3,05?
Alors si vous êtes un emprunteur moyen, donc mettons de 35 ans sans problème de santé particulier, on a coutume de dire qu'il faut enlever environ 0,60 pour pouvoir absorber à la fois le coût de l'assurance et
les autres frais annexes
de prise de garantie, etc. Donc vous faites 3,05 moins 0,60, vous êtes à 2,45, 2,50, voilà.
D'accord, donc après, si on vous propose, en gros, à ceux qui nous écoutent, si on vous propose plus que 2,40, 2,45, globalement, dites-vous que a priori, ça a peu de chances de passer. Et donc ça, pour vous, dans 3 semaines, 1 mois, on se retrouvera de nouveau avec des taux...
Je le crains, et je pense qu'on ne fera pas l'économie. On peut repousser le problème de trimestre.
Mais alors justement, comment on fait, Olivier? Parce que là, on a un gouverneur de la Banque de France qui nous dit la formule mathématique fonctionne, j'y touche pas. Mais vous, qui vous confrontez à ces difficultés-là,
on ne fera pas l'économie d'une réforme en profondeur du taux d'usure. Alors, je reconnais volontiers que ça n'est pas le rôle du gouverneur de la Banque de France. Hein. C'est la voie parlementaire. Donc là, c'est le rôle du gouvernement ou d'autres parlementaires de proposer un projet de loi là-dessus. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a la perception de la part du gouvernement de ne pas avoir l'espace politique pour proposer un relèvement, enfin une réforme qui reviendrait à,
oui, parce que
à ajuster plus rapidement le taux d'usure sur les crédits
immobiliers. Parce que quelque part, ça veut aussi dire on accepte en tant que pouvoir public de faire payer plus cher aux Français leurs crédits immobiliers.
Oui, bien sûr. Et c'est cette lecture-là qui fait peur. Mais moi, je pense que l'espace politique existe.
Il faut faire quoi? Très, très clairement, il faut faire quoi?
Je pense que l'espace politique existe pour trouver une majorité autour de l'idée qu'on doit permettre au taux d'usure immobilier de s'ajuster plus vite qu'aujourd'hui, idéalement sur une base mensuelle. Ouais. À l'heure d'Internet, ça paraît quand même bon.
Au lieu de tous les trois.
On rappelle que
et peut-être
le fonctionnement de ce taux à 30 ans.
Oui, oui, oui.
Et on imagine bien que les courroies de transmission n'étaient pas les mêmes il y a 30 ans qu'aujourd'hui.
Bien sûr.
Faut pas être
et peut-être en retour de cet ajustement plus rapide du taux d'usure IMO, peut-être se poser la question de revoir les taux d'usure qui, eux, protègent vraiment du surendettement, c'est-à-dire le taux d'usure qui s'applique au découvert, il est au-dessus de 15% aujourd'hui, et le taux d'usure qui s'applique à certains crédits de trésorerie, ce taux d'usure va jusqu'à 21%. Donc, vous voyez, il y a peut-être un espace pour trouver un compromis.
Il y a des leviers à actionner et
au marché du crédit
dans la dentelle.
De fonctionner de façon plus efficiente tout en protégeant les Français. J'en suis convaincu en tout cas.
Oui, la demande, ce n'est pas de supprimer le taux d'usure, c'est juste
évidemment,
qu'il soit
personne n'a cette
au goût du jour.
Et on
personne.
Rappelle que même si effectivement c'est accepté que les Français paient plus cher leur crédit immobilier, aujourd'hui, compte tenu des autres indicateurs économiques, on parle de l'inflation, vous parliez de l'OAT, on parle des taux de refinancement des banques. Très clairement, compte tenu de ce contexte-là, quand on avait connu ce contexte plus ou moins similaire, les taux, ils n'étaient pas à 2 ou 2,5%. Ils étaient plutôt à 3,5, 4, 4,5.
Absolument. La dernière fois que l'OAT était à 2,80, le taux d'usure devait être quelque part entre 3,50 et 4%.
Voilà.
Absolument.
Merci beaucoup, Olivier Landrevi, CAFPI, qui nous accompagnait ce matin. Merci Marie, bon week-end. On se retrouve lundi. Le marché parisien, lui, progresse. On est en hausse d'un 14%. On est actuellement à 5741 points. On va voir ce qu'en disent nos traders qu'on retrouve dans un instant. Et puis, vous n'oubliez pas non plus la une des éco-patrimoines que vous pouvez retrouver, bien évidemment, dans tous les bons kiosques pour déterminer quels sont les meilleurs placements pour chaque génération, que vous ayez 20, 40, 60. Et eh bien, les éco-patrimoines vous guident en partenariat avec BFM Business.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin, deux traders se mettent à votre service pour lire la tendance du jour. Jean-Louis Cussac, que l'on retrouve en duplex depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil, et en ligne avec nous depuis Technibourg, Stéphane Sauduteil. Bonjour tout le monde et merci messieurs d'être au rendez-vous ce matin encore.
Bonjour.
Stéphane, comment voyez-vous cette dernière séance du mois de septembre?
Donc c'est une séance bien sûr technique puisque c'est une fin de trimestre bien entendu. Il y aura certainement des ajustements, peut-être plus en fin de journée. C'est vrai que depuis trois jours, on essaye d'aller chercher des nouveaux points bas, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Alors c'est vrai qu'on avait cassé des 5750 points, c'était pas terrible. Il y avait un potentiel de baisse sur 5005, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, mais je pensais pas qu'on aille vraiment en dessous. Alors on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'aller en dessous dans ce marché toujours incertain, mais on a l'impression qu'on vit peut-être quelques vagues de rachats sur bon compte, hein, de par peut-être la gestion. Ça va un tout petit peu mieux ce matin. Alors on peut pas dire que ça va monter forcément bien haut. Mes premiers niveaux de résistance pour moi sont situés entre 5800 et 5875 points. Au-dessus de 5875 points, ça s'améliorerait un petit peu. On pourrait viser les 6000, voire les 6125, mais ça semble déjà très haut par rapport au niveau actuel et par rapport aux échéances qui arrivent. Bien sûr, le discours de Monsieur Poutine sera très attendu par les marchés cet après-midi. Et puis, on a des chiffres aussi d'inflation à 11h en zone euro. Et puis aussi, on a des chiffres d'inflation aux États-Unis à 14h30. Donc, la journée peut changer encore, hein, bien entendu. On peut très bien se retrouver ce soir à la clôture de ce mois vers la zone basse, hein, c'est-à-dire 5625, 5660, comme on pourrait se retrouver un petit peu plus haut. J'aurais tendance à voir le verre plutôt à moitié plein quand même, parce qu'on a un pourcentage d'investisseurs haussiers aux États-Unis excessivement bas, à 11-12%. Donc ça veut dire que le négativisme est à son paroxysme. Donc souvent, les marchés ont tendance à prendre un peu le contre-pied de cela. Donc pourquoi pas viser, alors là c'est vraiment un peu contrarien, hein, une petite reprise dans les prochaines heures ou jours, journées, vers les 5008, 5875. Pour moi, c'est... J'ai cherché à acheter un petit peu cette zone de points bas de ces derniers jours en mettant des stops de protection juste sous les 5600 points. Pour l'instant, ça fonctionne un petit peu, mais j'y vais vraiment avec des quantités très réduites. Je laisse un petit peu porter à l'heure actuelle avec l'idée peut-être qu'on peut quand même retrouver un tout petit peu de couleur, mais attention quand même, hein, les échéances qui arrivent sont importantes et tout ça peut changer très très vite, donc il faut mesurer quand même ces prises de position. Mais c'est vrai que quand on regarde les graphiques journaliers, on a l'impression qu'on fabrique un petit peu une structure qui pourrait peut-être nous ramener un tout petit peu plus haut dans les prochaines journées.
Jean-Louis Cussac, votre lecture de cette dernière séance du mois de septembre et, c'est vrai, dernière séance du trimestre?
Ou probablement il y aura des ajustements ce soir sur des pondérations, etc. Oui, et donc il faudra pas être surpris par le volume. Hein. Là, on est à 420, donc c'est modeste. C'est vraiment une petite moyenne de ces derniers jours, mais... Parfois, quand même, on a eu encore moins que cela. Donc, on a une volatilité implicite à 26,8. Donc, vraiment une très élevée, beaucoup de méfiance. Et en effet, comme l'a dit Stéphane, il faut se méfier de cette reprise. Malgré tout, c'est une reprise de 2,2%. Vous vous rendez compte, on a regagné comme ça, l'air de rien, 2,2% depuis 16h30 hier. Cette résilience est extraordinaire quand même. Il faut le noter. Et ça prouve bien que derrière tous ces mouvements... amplifié par des facteurs de construction, par des contraintes de construction, par des algos aussi, qui gèrent les gestions de delta sur les options, vous avez mécaniquement des écarts qui sont vraiment énormes. Donc, il faut noter, si vous voulez, il faut essayer de trouver l'idée, c'est est-ce qu'il y a de la conviction derrière tout ça? Est-ce que vraiment il y a des sell-off, etc.? Ben non, par contre, oui, sur les petites valeurs, les moyennes, même parfois beaucoup de grosses, hein, on a eu un véritable crash, c'est ce que je disais hier notamment, et hier aussi, je vous disais, peut-être, si je me suis avancé sur un point bas potentiel, temporaire au moins, 5620, ben écoutez, on a fait 28, et quand je l'ai dit encore hier à 16h30 avec Guillaume Sommerer, eh bien, nous étions sur ce niveau, j'ai dit voilà, on est vraiment sur un niveau, et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, ça m'empêche pas de revendre maintenant, hein, en pur intraday. Par contre, en effet, il faut être léger sur le marché. Mais je viens de revendre. En gros, entre 5520 et entre 5720 et 5770, il y a une zone de vente. Mais le marché a progressé d'une manière très linéaire depuis 8h du matin, hein, même avant séance. Et il n'y a pas eu un seul signal technique. Donc, si vous voulez, c'est de l'anticipation dans l'espoir d'avoir un double top, une zone de résistance. Mais la progression s'est arrêtée depuis maintenant un certain temps sur 5750, sur comme par hasard sur un strike. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon qu'on vend potentiellement. Et oui, il y a aussi l'Eurodoll qui quand même envoyait un message fort quand même de petites reprises de confiance, c'est D'accord. tout ça tient à pas grand-chose. Surtout que on est donc trimestriel là sur une échéance trimestrielle et on me dit que sur le euro-dollar, il pourrait y avoir un fixing très important à 14h et à 17h, il y en a deux importants à suivre. Mm-hmm. La rumeur ça serait que ils viennent taper un petit peu l'euro avec des achats de dollars. Voilà. Donc on va voir hein tout à l'heure à 14h, 17h, peut-être qu'on viendra il y aurait des arbitrages avec on vend l'euro-doll donc.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Stéphane Sauduté depuis Technibourg. Stéphane, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30. Le marché parisien lui progresse d'un 22%, 5746 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour. Liz Truss a répété hier qu'elle ne changerait rien à ses promesses de baisse d'impôts pour 2023. Résultat, la Grande-Bretagne subit une très grave crise de défiance depuis une semaine. Que se passe-t-il ?
Il se passe ce qui se produit quand on fait n'importe quoi, quand on fait des choix budgétaires complètement délirants, quand on aligne des milliards et des milliards totalement non financés. Il y a un moment où ça va et puis il y a un moment où ça va plus. et où ça casse. Et là, on est au moment où ça casse. Alors, résultat, la livre sterling s'effondre. Elle est pas très très loin de la parité face au dollar. Ça s'est jamais produit. Hein. Les taux auxquels la Grande-Bretagne s'endette se sont envolés au niveau de l'Italie. Ils ont retrouvé leur niveau des pires moments de la crise financière de 2008, 2009, 2010. La Banque d'Angleterre, on le sait, va fortement relever ses taux. Elle a fait une action absolument inimaginable à un moment où il s'agit de lutter contre l'inflation. Devant ce qui s'appelle une panique, mercredi, elle décide d'acheter en urgence 65 milliards d'euros de livres de titres de dette publique britannique à 15, 20 et 30 ans. Parce qu'en fait, tous les fonds de pension balancent c'est leurs 30 ans, considérant que, oh là là, l'horizon 30 ans, c'est quand même beaucoup, beaucoup trop incertain pour conserver ce genre de titre. Et donc, l'objectif, c'était de stopper la chute de la livre, et surtout de calmer l'envolée des taux. Donc, dit autrement, il y a une espèce de sauve qui peut. Quand vos taux remontent de manière absolument spectaculaire, ça veut dire que plus personne ne veut de votre titre de dette. Quand votre monnaie s'effondre de manière spectaculaire, ça veut dire que plus personne n'a confiance dans cette monnaie et que tout le monde la vend. C'est exactement ce que vit aujourd'hui la Grande-Bretagne. C'est à peu près le pire des scénarios qu'une économie peut connaître. Et une vrille de qualité souveraine, c'est quelque chose qui se produit, on le voit, en quelques jours. Il ne faut pas 6 mois.
C'est quoi la suite pour Londres ?
Il y a 2 solutions. Soit, effectivement, c'est la volte-face du gouvernement britannique et Liz Truss revoit complètement sa copie, mais auquel cas, elle épuise le peu de crédit politique qui lui reste, parce que franchement, en l'espace de moins de 15 jours, mais elle s'est quand même fait remonter les bretelles par le FMI. C'est un pays du G7, c'est assez humiliant. Le FMI qui a dit d'urgence, il faut absolument revoir complètement le programme de bouclier tarifaire et le programme de baisse d'impôts. Et soit la Grande-Bretagne va rentrer dans une crise peut-être historique, hein, 1976, il y a le FMI qui est aux portes de Londres, et puis Margaret Thatcher va arriver. En plus de ça, il y a un risque immobilier certain, puisque les Britanniques, à la différence d'autres populations comme nous, empruntent à taux variable. Vous allez retrouver des ménages qui vont être complètement étouffés par les niveaux de remboursement qu'ils sont en train de vivre. Et puis s'ajoute à ça 10% d'inflation, la plus forte inflation des pays du G7, avec une crise sociale et des mouvements de grève qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très durs. La moralité de tout ça, c'est que, l'incident de crédit, le risque de défaut, le Fonds monétaire international, c'est pas réservé aux pays pauvres du Sud. Ça peut arriver aussi dans des grandes économies. Quand on mise tout sur la dette, on peut continuer jusqu'au jour où. Alors personne ne sait jamais dire ce jour, quel est ce jour. Les Britanniques viennent de rencontrer ce jour. Ils ont un programme qui, objectivement, n'est pas tenable. Il y a 200 milliards de livres qui ont été annoncés, à la fois en bouclier tarifaire et en baisse d'impôts. On pense que le déficit va flirter avec les 9% cette année. Et contrairement d'ailleurs à l'Italie, c'est un pays qui a une balance courante très, 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 très déficitaire. Donc maintenant, on commence à parler des trussonomics pour les choix de politique budgétaire de Liz Truss. Et Larry Summers, l'ancien conseiller de Bill Clinton, disait très clairement cette semaine probablement que les trussonomics resteront la plus grave erreur de politique budgétaire de l'histoire.
Est-ce que ce scénario britannique pourrait nous arriver ?
On voit que personne n'est à l'abri. Objectivement, un pays qui vit à crédit, qui dépense sans compter, qui creuse ses déficits, qui creuse sa dette, ça vous rappelle quelqu'un, malgré tout. Alors pour l'instant, effectivement, nous, en dépit des budgets que l'on affiche avec des chiffres hallucinants, hein, le record de l'histoire de montant d'emprunt en 2023, 155 milliards de déficit public en 2023, c'est-à-dire 100 milliards de plus qu'en 2017 quand même. Pour l'instant, ça tient. Alors pourquoi ça tient ? Il y a 3 raisons principales. La France a la réputation parmi les pays de l'OCDE d'être le pays qui lève le mieux l'impôt. On sait faire rentrer l'argent. Ça rassure l'ensemble des investisseurs du monde entier. C'est principalement des fonds de pension et des fonds souverains, les acheteurs notamment, et puis des assureurs. Donc ça rassure vraiment ceux qui achètent des titres souverains. Le deuxième élément, c'est qu'on a une épargne financière liquide très importante, qui dépasse 3 000 milliards d'euros. Donc ça, c'est un élément rassurant. Et puis on est quand même à l'euro. On est à l'euro et je peux vous assurer que si on était en francs aujourd'hui avec notre réputation de cigale, le quoi qu'il en coûte et les boucliers, on ne pouvait pas les faire comme on les a fait. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, vous remarquerez que chez les souverainistes, qu'ils soient français ou qu'ils soient maintenant italiens, plus personne ne met en tête de gondole de ces projets le fait de quitter la zone euro. Tout le monde a bien compris que l'euro, c'est peut-être pas une police d'assurance éternelle, mais enfin, ça joue quand même ce rôle aujourd'hui.
Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, si vous voulez réentendre une analyse aussi pointu économiquement sur cette question de Grande-Bretagne, je vous renvoie au podcast et notamment celui de Regards croisés de mercredi avec Hervé Gouletker qui était bigrement intéressant. Nicolas Dose, donc, qui chaque jour nous accompagne pour la polémique du jour. Le CAC, lui, gagne à peu près 1%, on est juste en dessous pour le moment, 5730 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
L'heure de retrouver François Monnier pour la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Et Eric Blen pour Swiss Life Gestion Privée. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous de ce vendredi. Des politiques monétaires restrictives, une récession annoncée et des investisseurs qui broient du noir. Eric, est-ce qu'on est au plus bas de l'année ?
En tout cas, il y a des signes de capitalisation, de capitulation.
Oui, capitulation plutôt.
Capitalisation, non, mais capitulation.
Capitalisation aussi peut-être, mais...
Capitulation, ça c'est sûr. On a quand même... Alors ça, c'est pas très nouveau, mais on a des investisseurs qui sont quand même pessimistes. Donc ils ont lâché l'optimisme de la fin d'année dernière, c'est clair. La volatilité est très élevée, elle remonte sensiblement. Il y a très peu de titres qui globalement s'orientaient à la hausse. On a vraiment 85% des titres qui sont orientés à la baisse. On a des zones de survente sur le CAC 40, sur le S&P 500 qui est donc le marché directeur. On est sur un mois de septembre. Le mois de septembre n'a jamais été très bon pour la bourse. En général, c'est même le plus mauvais des mois. Et bon, on va clôturer ce soir, mais on va être autour de moins 8. On a quand même des fortes inquiétudes sur, vous l'avez dit, sur la croissance économique, puisqu'on parle tous de récession. De taux qui ont été revus de façon agressive à la hausse par les marchés et par les banquiers centraux. Moi, je pense quand même qu'on a fait quand même une bonne partie du chemin. Alors, c'est toujours difficile de dire bah, c'est le plus bas de l'année, parce que ça, on sait jamais, on le sait après. Hein. Mais en tout cas, on a bien avancé dans la baisse. Donc je serais effectivement plus confiant que je ne l'étais depuis le début de l'année.
François, comment vous... C'est vrai qu'on est... Il ne nous reste plus qu'un trimestre pour boucler l'année, donc...
Non, c'est vrai qu'on peut avoir un rebond à court terme, mais on est quand même dans une tendance, hélas, baissière. Baissière pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit, l'inflation, elle est là. Elle accélère même dans certains pays, puisqu'on a déjà deux grands pays en Europe avec une inflation qui dépasse 10%, que ce soit l'Allemagne, c'est la grande surprise de cette semaine, et le Royaume-Uni. Et c'est, on a une inflation finalement qui peut durer. On est en train de se rendre compte que quand on a eu les taux négatifs en 2014, on pensait que c'était quelque chose de tout à fait transitoire, ça allait durer quelques semaines, voire quelques mois. On en a eu pour 8 ans. Et là, on redécouvre l'inflation et on pense que, grosse erreur des banquiers centraux, temporaire, mais on peut en avoir peut-être encore pour une décennie. Donc ça va être, il faut réapprendre et on ne sort pas de 8 ans de taux négatifs en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, hélas. Et on voit qu'on a quand même des banquiers centraux qui ont mal anticipé, voire peut-être qui paniquent. On a encore eu quelques signaux cette semaine au niveau de la Banque Centrale Européenne qui, moi, m'inquiète, c'est quand la Banque Centrale Européenne se met à s'occuper de la fiscalité des ménages. Ils nous sortent une étude en disant bah, peut-être qu'il faut taxer les surprofits des entreprises et les ménages aisés. Ils sortent complètement de leur rôle qui est la gestion de l'inflation. Je rappelle l'objectif de la BCE, c'est 2% d'inflation. Là, on est à 11% en Allemagne. Ils ont complètement raté leur objectif et maintenant, ils se mettent à s'occuper de tout. Et donc ça, je trouve que c'est un signal un peu de panique, qui est de dire, bah voilà, puisqu'on n'est pas à l'aise sur l'inflation, qui est un peu notre métier, nous, banquiers centraux, on va un peu s'occuper un peu des affaires, du budget, des politiques, etc. Donc c'est quand même des signes de fébrilité. Donc ça, c'est pas rassurant. Deuxième élément qui n'est pas encore tout à fait rassurant, c'est le consensus des analystes sur l'ensemble des entreprises en Europe. En Europe, on a encore un consensus qui est relativement élevé pour 2023, puisque 2022 c'est fait. Hein. 2022, on sait, on a eu un premier semestre exceptionnel. On va avoir un troisième trimestre qui va profiter de cette dynamique de début d'année. Mais au quatrième trimestre, on va avoir des signes de déstockage de la part des entreprises et des prévisions extrêmement prudentes. Et sur 2023, qu'est-ce qu'attend le consensus des analystes ? Une progression de 3% des bénéfices des entreprises en Europe. C'est pas raisonnable. On aura une baisse, et cette baisse des bénéfices, elle sera probablement d'une dizaine de pourcents. Donc, il va y avoir des rajustements. Là, on a pris, j'ai envie de dire, la première vague qui est macroéconomique, où chaque jour, chaque semaine, on a des statistiques qui montrent qu'il y a un ralentissement. On a encore eu, en début de semaine, l'OCDE qui montrait que ça ralentissait fort et un peu partout. Et la deuxième vague, ben, ça va être les entreprises qui vont dire, oui, on commence à sentir le coup. Donc on est dans un climat qui est difficile, il faut s'y préparer, ça peut durer encore un certain temps, Mais comme on le sait, dans un marché qui baisse, on aura des figures de rappel et il y aura probablement un rebond technique, peut-être même dès la semaine prochaine, parce que on voit que là on a eu une accélération à la baisse. Et généralement, quand il y a des accélérations à la baisse, c'est là que on est un peu dans une zone de survente, comme l'a dit Eric, et il peut y avoir des rebonds techniques. Et ces rebonds techniques, ça va être les valeurs les plus sanctionnées qui en profitent, mais l'environnement reste encore, hélas, un peu compliqué, je trouve.
Vous avez des éléments comme ça qui vous permettent d'espérer un petit peu ou pas ?
Alors, pas encore, c'est clair. Enfin, on voit ce qui se passe en ce moment, donc pas encore, mais il faut suivre certains éléments. Alors, je suis tout à fait d'accord avec François sur le sujet des croissances bénéficiaires attendues par le marché. C'est vrai qu'on a des marges qui sont au plus haut sur le deuxième semestre, enfin sur le premier semestre 2022. Ces marges vont baisser, c'est intenable. Donc c'est clair que... Mais la bourse a quand même bien avancé quand même dans ce travail de se dire, de toute façon, les publications, elles vont être revues à la baisse. Jusqu'à maintenant, on avait des publications qui ont rassuré. Alors, bon, on voit bien que les profit warnings sont quand même très sanctionnés. Est-ce qu'elles seront encore rassurantes? Est-ce que ça sera finalement une inquiétude qui va se transformer en éléments rassurants? On regardera. Je pense que les éléments de stabilisation, comme on essaye de regarder, ça va avant tout venir des États-Unis. Sur l'inflation aux États-Unis dans les éléments core. On a vu aux dernières publications sur l'inflation américaine que l'inflation baissait, mais c'était pas sur les éléments core. Ça a donné quand même une forte baisse du marché et ce mouvement du mois de septembre. Si ça devait stabiliser, je pense que ça sera un élément très important et que les investisseurs regarderont avec attention. Ce que va donner les signaux du marché obligataire, en particulier américain, suite aux publications d'inflation, ce que va dire évidemment le banquier central derrière, mais je pense que si le signal d'inflation aux États-Unis et le signal du marché obligataire, est-ce qu'on a atteint les plus hauts sur le marché obligataire ? Les plus hauts en termes de taux, pas en termes de cours. Je pense que ça sera des éléments déterminants de stabilisation. Après, il y a la volatilité d'échange qui est extrêmement importante et qui fait envoler le dollar contre toute monnaie. Si le dollar devait se stabiliser, voire rebaisser un peu contre euro, je pense que là aussi, on aurait des éléments de stabilisation du marché. Et on a une grosse inconnue, c'est la géopolitique en Europe, avec en ce moment les annexions du territoire ukrainien, les sabotages qu'on a vus sur des infrastructures quand même qui appartiennent à l'OTAN. Donc là, il y a des gros points d'interrogation européens. S'il y avait des signes de stabilisation à ce niveau-là, moi j'y crois assez peu, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder quand même.
Vous aussi, vous avez quelques éléments qui vous permettent peut-être d'espérer ou pas ?
Là où on espère, c'est qu'on voit des réactions sur certains titres. Pour l'instant, on n'a pas encore de capitulation, mais on voit qu'il y a des phases d'accélération, voire de panique. On l'a vu cette semaine avec Nexity qui a annoncé son plan stratégique et qui a perdu 20% une séance. Et donc là, on se dit, oui, peut-être qu'il y a un peu d'exagération du côté du marché. Donc on voit quelques signaux de capitulation sur certains titres, mais pas encore au niveau global. Et il faut regarder maintenant ce qui va se passer dans la gestion des ETF. Dans la gestion active, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gérants ont mis beaucoup de cash, qu'il y en a pas mal qui ont mis en plus des protections en prenant des shorts, des positions vendeurs pour se couvrir sur leur portefeuille. Mais maintenant, comment vont se comporter ceux qui détiennent des ETF ? Et on sait, les ETF, ça concerne essentiellement les plus grosses capitalisations mondiales. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que au niveau des Apple, des Amazon, il y a de la fébrilité. On a commencé à avoir un peu de fébrilité hier sur Apple, avec un titre qui a perdu près de 5%. Donc il faut surveiller ça. Généralement, quand on est dans une phase de baisse, on vend dans la première phase tous les titres qui sont les plus fragiles, les bilans endettés, les faibles marges, etc. Après, on a tendance à vendre un peu les défensives. Et après, c'est les poids lourds, les mastodons. Et donc là, on a vu quand même que les gros mastodons, Apple encore hier soir, ont commencé à avoir un peu de pression baissière. Donc là, il faut voir si cette pression baissière continuait. Ce serait, je pense, un signal positif en disant, la rotation sectorielle, le grand ménage, il est fait et on a poussé jusqu'au bout et on a nettoyé toutes les pièces de la maison. Donc là, il faut surveiller ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux qui disent ça y est, c'est reparti. Et on va encore avoir des hausses de taux. Il y aurait deux grands signaux qui seraient importants pour moi. C'est les banquiers centraux qui disent ça y est, on a enfin fait le travail. Et maintenant, les hausses de taux, c'est terminé. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal qui est intéressant pour les investisseurs, c'est de se dire, ça y est, on est enfin en récession. En fait, les investisseurs, ils seraient contents d'être en récession. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent connaître l'ampleur des dégâts. Et c'est comme pendant les guerres. Généralement, le marché baisse au début de la guerre et après, tout de suite, on met en place des stratégies et on sait à peu près à quoi s'en tenir. Et le marché repart parce que c'est un marché d'anticipation. Donc, tant qu'on n'est pas en récession et qu'on a la confirmation qu'on n'a pas une récession, on risque d'être sur une pression baissière. Et on l'a vu statistiquement. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les points bas sur les marchés, c'est généralement aller entre 3 et 6 mois après une entrée en récession. Et comme on n'y est pas encore, eh bien, il y a toujours un peu de fébrilité et beaucoup de volatilité sur les marchés.
Voilà donc quelques éléments. Déjà, la semaine dernière, on s'interrogeait de savoir s'il fallait gaver son portefeuille de défensif face à cette situation un petit peu particulière. Du coup, quelle stratégie d'investissement vous mettez en place, vous ?
Bah, on a été assez défensif depuis le début de l'année. On avait, nous, de notre côté, pas mal de pétrole avec Total... évidemment, du gaz industriel, je pense à Air Liquide et Linde, des télécoms, donc Deutsche Telekom, Orange, de la pharma, Sanofi s'est pas bien comporté, hein, boisson avec Pernod Ricard, je vais m'oublier quand même dans Pernod, défense Thales, ça s'est très bien comporté, le luxe on avait conservé, et un peu de techno avec Capgemini notamment, et dans la construction on avait gardé les plus sécurisants, hein, Vinci et FH. On voit bien que maintenant on est en train de faire baisser en fait ces valeurs qui ont bien tenu. Et c'est normal parce que les autres ont tellement baissé qu'à un moment donné, les écarts se creusent et il n'y a plus de raison. Donc la stratégie actuelle, elle est plutôt de reprendre des positions en fait sur des titres qui ont beaucoup baissé et qui, alors peut-être à court terme, peuvent faire un rebond et on verra si ce court terme se transforme en moyen terme. Moi, je trouve que, par exemple, en ce moment, on a renforcé nos positions dans l'assurance avec AXA, dans les banques, avec la BNP, et les industriels m'intéressent quand je vois un Stellantis sur les cours de... Enfin, trois fois le PE, quand on voit Alstom baisser sensiblement, quand on voit Saint-Gobain, alors aujourd'hui ça rebondit un peu, mais s'effondrer, Schneider, voilà, c'est des titres qui m'intéressent plus aujourd'hui que d'avoir du défensif. Donc, pourquoi pas anticiper un rebond, peut-être de court terme, et puis on verra ce que donnera le court terme.
Oui, il n'y a pas que les défensives dans la vie ?
Oui, il n'y a pas que les défensives. Je pense qu'il faut toujours avoir un portefeuille équilibré. Hein. Nous, c'est ce qu'on recommande, c'est un tiers de valeur défensive, un tiers de valeur décotée et un tiers de valeur de croissance. Et à très court terme, si on peut se dire qu'il y aura peut-être un rebond technique, il faut peut-être regarder du côté des financières qui ont vécu une très mauvaise semaine. Mm-hmm. Et donc remettre un petit peu de BNP ou de Banco Santander ou de l'Alliance ou de l'AXA pour l'assurance dans les portefeuilles si on n'en a pas. Tactiquement, pour quelques séances, ça peut être opportun parce qu'on a eu quand même une forte pression baissière. Mais globalement, il faut essayer de bouger le moins possible les portefeuilles parce qu'on est dans un environnement mouvant. Donc, il faut plutôt avoir des titres où on sait qu'on a de la visibilité, des titres qui peuvent résister à la récession et essayer d'avoir des titres, j'ai envie de dire, mais ça, c'est un peu le Graal. Pas trop cher non plus, mais,
ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est pas toujours facile. Ouais.
Acheter au plus bas pour revendre au plus haut.
C'est un peu le but. Hein, c'est comme ça qu'on fait la performance, mais parfois, on peut en laisser aux autres.
Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure. Hein, vous répondrez aux questions des auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire si vous avez des questions sur tel ou tel titre ou telle stratégie. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et puis les podcasts que vous pouvez retrouver bien évidemment sur notre site ou sur nos plateformes partenaires et qui vous permettent de réentendre tout ou partie de l'émission à votre convenance. Dans un instant, un petit détour, un petit coup d'œil sur les marchés et puis regard croisé. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.